RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique jusqu'à 19h sur France 24 et RFI. Bonsoir Véronique Rigolet.
Bonsoir.
Et ensemble, nous recevons ce soir Malek Bouti. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député de l'Essonne, membre de la commission de la Défense à l'Assemblée nationale, ancien président de SOS Racisme. En 2007, vous souteniez Ségolène Royal. Puis quand Nicolas Sarkozy a été élu, il vous a fait les yeux doux pour entrer dans son gouvernement. Mais vous avez refusé. C'était le temps où le nouveau président chassait sur les terres du camp adverse. Ça s'appelait l'ouverture. Aujourd'hui, vous soutenez Manuel Valls. L'ancien Premier ministre donne des interviews tous azimuts, malheureusement pas à France 24, mais ça va venir. Se démultiplie sur le terrain, mais la campagne est difficile, un peu laborieuse. Pourtant, l'ancien Premier ministre y croit. Écoutez-le, c'était ce matin sur France Info.
Je suis candidat parce que je veux gagner, parce que je veux que la gauche soit au deuxième tour, parce que je ne veux pas que le choix des Français soit entre la droite, dure, conservatrice, celle de François Fillon, et l'extrême droite. Et je pense que la France a toujours besoin de la gauche.
Alors la gauche au deuxième tour, c'est un rêve éveillé, c'est possible ?
Moi je crois vraiment sincèrement en toute objectivité, je crois que c'est possible. Et pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre une chose. La droite...
La gauche avec Manuel Valls. Il peut gagner.
Je vais commencer par la gauche.
La gauche socialiste avant, ou la gauche ?
Avant de personnaliser, je vais parler de l'enjeu électoral et de la compétition électorale. La droite, je pense, a fait une erreur dont on doit profiter. C'est-à-dire, elle s'est comportée dans l'opposition avec l'idée de dire que les difficultés qu'on allait accumuler, le bilan suffirait par effet repoussoir à créer la victoire. Et d'ailleurs, quand on observe bien dans la primaire de la droite, il n'y a pas d'idée tout à fait nouvelle, originale, aucune idée vraiment nouvelle qui est apparue, qui aurait créé une polémique. Il y a une compétition.
Pourquoi il y en a chez vous ?
J'y reviendrai, nous on est en exercice, mais une compétition autour de l'idée, ce sera François Hollande le candidat, il est dans des eaux extrêmement basses.
Donc l'alternance est acquise.
La primaire, celui qui gagnait la primaire était président, et d'ailleurs la presse a été à deux doigts, comme beaucoup dans l'opinion publique, se dire « Ah, François Fillon ayant gagné, il a de grandes chances d'être président ». Et quand le président a jeté l'éponge, quand il a décidé de ne pas se présenter, en fait, c'est une nouvelle élection présidentielle. On recommence tout à zéro. Pourquoi ? Parce que, d'un certain point de vue, aujourd'hui, c'est un nouveau débat qui commence. Il ne s'agit pas de harceler le président sortant sur son bilan, mais d'avoir une nouvelle candidature en face, qui aurait été désignée aussi par une primaire, autour d'un changement d'époque, autour de nouveaux enjeux. Ce n'est pas un débat de présidentiel sur le passé, mais sur nos choix à venir qui va avoir lieu. Donc, ça donne une chance à la gauche. Je vais être honnête, elle part de loin, elle a plus de difficultés, elle a quand même l'exercice du pouvoir derrière elle.
Mais c'est la gauche incarnée par qui dont vous parlez là à l'instant ?
Moi, je pense que la logique de ça veut qu'on ait un candidat qui soit pas un candidat de rectification, un candidat qui a des bonnes idées, mais un candidat qui peut être un homme d'État. Autrement dit quoi ? Si la gauche pense que cette élection, elle est un sparring partner et qu'elle est là pour témoigner, elle doit choisir un candidat avec des idées originales, un candidat qui peut innover, mais qui va pas gagner.
Vous décrivez qui, là ? Parce qu'on l'a pas encore bien vu, celui-là.
Non, mais il y a beaucoup de candidats qui viennent avec des idées.
Et heureusement.
Je pense que Manuel Valls, il ne vient pas qu'avec des idées.
Il vient aussi avec le bilan de François Hollande.
Oui, non, mais surtout, il vient avec une chose. Il est le seul à qui on peut confier le bouton nucléaire en France. Je m'excuse.
Et pourquoi ?
Mais il y a un moment...
Qu'il a été Premier ministre.
Oui, parce que vous avez exercé des hautes fonctions. Et ceux qui ne croient pas à cette théorie, ils peuvent aussi observer...
Si on suit votre argument, François Hollande n'aurait jamais été président de la République.
Mais justement, quand vous regardez la difficulté auquel il a été, c'est une des leçons qu'on a tirées. On ne peut pas exercer la fonction de président de la République si vous n'avez pas un minimum d'expérience de l'appareil d'État. Ce n'est pas possible.
C'est pourtant la réalité.
C'est une des grandes raisons de ces difficultés.
On va peut-être évoquer donc l'autre scénario, c'est si la gauche ne gagne pas et vous n'êtes même pas au deuxième tour. Quel avenir pour le PS ? Est-ce que c'est le même schéma qu'en 2002 ? C'est-à-dire que vous tombez en dépression et c'est le no man's land idéologique. Qu'est-ce qui se passe ? Vous remettez les compteurs une fois de plus, ça pour le coup à zéro.
Le
fameux PS peut mourir.
Je pense que ce débat politique sur le PS est mort, il va mourir, il meurt, ou il ressuscite.
C'est votre ami qui disait ça.
Oui, mais ils sont plusieurs à dire ça. Il se passe rien. Je pense que la réalité, elle est un peu grise. C'est-à-dire que le danger ne vient pas du PS aujourd'hui. Le danger vient, je pense, d'une partie de gens qui sont très déçus et qui peuvent... On voit, il y a une génération qui est en train de se dire qu'elle va casser le jouet qui lui a tout donné. Voilà. Quand je vois Ségolène Royal, qui a été candidate du Parti Socialiste, qui a participé à une primaire, commencer aujourd'hui à soutenir le jeune Macron, dont il y a trois ans, elle disait pique-pan ou elle n'en avait rien à faire. Simplement, parce qu'elle se dit maintenant, puisque c'est fini pour moi, c'est fini pour tous les autres.
Et vous pensez que c'est ça, vous pensez que c'est ça le sens de la démarche de Ségolène Royal? Elle ne peut pas en un sens adhérer aux idées d'Emmanuel Macron?
Non, je crois pas.
La transgression, elle n'est pas portée par Macron aujourd'hui plus que par Valls?
Non, je crois pas, sincèrement.
Donc c'est une démarche négative de Ségolène
Royal. Je dis pas que c'est une démarche négative, je dis simplement que j'ai connu Ségolène Royal et a raison, pointant du doigt ceux qui ne jouaient pas la solidarité et qui font toujours leur numéro et qu'elle est tombée dans les mêmes travers. C'est-à-dire quand je vois une série de personnalités, grosso modo, laisser la gauche se dire notre génération c'est fini, il y a des nouvelles. Voilà, moi je trouve que Manuel Valls relève le gant, qui prend un risque. Oui. Il sait quand même qu'il allait être la cible de toutes les flèches en rentrant dans cette primaire. Mais je pense que s'il l'emporte, il donne une chance à la gauche.
Malek Bouti, justement, sur ce que vous venez de dire et sur le fait que effectivement Ségolène Royal lorgne un peu sur le jeune Macron. Écoutez ce que disait hier sur RFI, c'était l'invité de Frédéric Rivière, hier matin, Luc Carnouvaz, donc sénateur proche de Manuel Valls. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec lui. On l'écoute.
Moi, j'aimerais, très sincèrement, j'ai horreur de la langue de bois, qu'on sorte un peu de l'ambiguïté. J'aimerais connaître la position de Madame Ségolène Royal. J'aimerais connaître la
savoir
position...
Savoir qui elle soutient.
J'aimerais connaître la position de Stéphane Le Foll. Cette forme de soit de mutisme, soit d'ambiguïté, nourrit chez notre électorat de gauche quelque chose qui, à mon sens, n'est pas bon, n'est pas sain.
Une ambiguïté qui nuit à la gauche? Parce qu'on voit que Sapin est du côté de Valls, d'autres aussi comme Le Drian, des gros ministres, Cazeneuve du bout des doigts, il s'affiche avec lui.
On va être sincère. Objectivement, vous avez beaucoup d'élus qui attendent la fin du premier tour pour s'exprimer. Ben oui.
C'est assez naturel.
Mais c'est assez naturel, mais il y a autre chose. C'est pas le même timing que la primaire de la droite. Il y a pas 6 mois. Tout se passe très vite. On va dire qu'elle commence vraiment là depuis le début janvier.
Trois débats en une semaine.
Et elle sera finie dans une quinzaine de jours.
Oui.
La deuxième chose, c'est que une primaire de promesse qui était celle de la droite, puisque tout nouveau, tout beau, c'est facile. Mais une primaire où il faut assumer un certain nombre de dimensions, c'est beaucoup plus difficile. Je vous donne un exemple. Arnaud Montebourg, c'est le chantre anti-rigueur maintenant. Il est le candidat de la fiche de paye. Mais il a juste oublié une chose. Il a été au gouvernement dans les périodes où le budget a été le plus rigoureux. C'est-à-dire toutes les coupes sombres, toutes les enjeux budgétaires, le CICE, tout ça, ça a été décidé. Il était là, il était à la table du ministre.
Donc il est comptable de ce polyclinique.
Pas qu'il est comptable. Il a soutenu et il a été solidaire de ses décisions. C'est clair.
Donc et il n'a pas le droit de changer d'avis pour en campagne.
Et bien sûr qu'il a le droit de changer d'avis.
Il serait pas le seul dans cette campagne.
Il serait pas le seul. Il a le droit de changer d'avis. Mais personne peut se dire, moi, je suis le chevalier blanc. En fait, j'ai les mains toutes propres et regardez, je suis un innocent. Donc, par contre, je vois une autre chose. Je maintiens ce que je dis. Il y a autour de ceux qui attendaient la candidature de François Hollande une sorte de rancœur et qui est en train de créer une drôle d'ambiance. Ce sont des gens qui, par tous les moyens, ciblent Manuel Valls. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi, parce que c'est le président qui a pris sa décision et Manuel Valls avait été très clair. Il n'aurait pas été candidat.
Il a pas un peu poussé.
Et vous aussi, vous avez été un premier à dire que vous ne vouliez pas que Hollande.
Parle de Manuel Valls. Si vous me posez, moi, j'étais très clair. Je ne voulais pas de François Hollande comme candidat. C'était une catastrophe pour tout le monde. Mais je pense que le président a été libre de son choix. Il a fait son choix. Il a jeté l'éponge. Il n'a pas été poussé. Rien ne le contraignait à jeter l'éponge. Tout avait été fait, pour être sincère, y compris le calendrier, pour lui permettre d'être candidat. Donc, et ces gens-là sont en train d'insinuer, ce sont eux qui passent leur temps à dire Mais Manuel Valls, ça va pas, mais ceci, mais cela. Bah, ah, Macron, par contre, ce brave Macron, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il a de bonnes idées. Vous, et lui, qu'est-ce qu'il est fidèle au président, lui, qui a quitté le gouvernement.
Vous voulez nous laisser croire que Manuel Valls n'a pas poussé dans le sens d'une non-candidature de François Hollande. C'est,
oui, mais,
c'est guère plus crédible. Hein.
D'accord, mais il ne l'a
faut
pas
le reconnaître également.
Poussé.
Non, le président, en conscience, a pris sa décision.
Voilà.
Mais qu'il y ait des gens pour lui conseiller que c'était la meilleure chose à faire, Manuel Valls
ça,
en a fait partie.
Sincèrement, ça, c'est la politique, c'est normal. Oui, c'est normal, mais c'est quand même pas une trahison de dire que le président n'est pas en situation de se présenter, qu'il y a une alternative qui peut exister.
Ça peut l'être vécu, visiblement, par un certain nombre de ténors
socialistes. Par ceux pour qui leur rapport à la politique, c'est la fidélité à un homme, comme
alors,
ils le disent.
Oui,
mais moi, je n'ai pas de fidélité à un homme. Pas plus à François Hollande qu'à Manuel Valls. Je soutiens Manuel Valls, pas parce que c'est mon ami, pas parce que c'est une connaissance, et pas parce que je suis valsiste. Je le soutiens parce qu'il a une ligne extrêmement claire sur la République,
Claire.
Sur la laïcité, sur la manière dont aujourd'hui on peut aider la gauche à sortir de son impasse idéologique et politique.
Justement, parlons quand même tout de même des contradictions de Manuel Valls. Ce qui faisait la force de Manuel Valls, c'est son réformisme, c'est son côté effectivement autoritaire. Et aujourd'hui, il affirme que le 49-3, on lui a imposé. Il entendait par là, bien évidemment, que ce sont ces empêcheurs de tourner en rond qui étaient les frondeurs. Il n'a pas tout à fait tort, mais aujourd'hui il dit qu'il veut le supprimer. Est-ce que, dans le fond, un Valls qui fait pas de Valls, c'est un Valls intéressant?
Peut-être pas, c'est une bonne question. Peut-être que l'intérêt qu'aurait Manuel Valls, on est à deux jours d'un débat qui va être crucial. Il y a eu des déclarations, des déplacements, on va dire des petites phrases par-ci par-là, mais tout le monde sait que le grand moment de la primaire, il va commencer dans quelques heures, dans 48 heures.
Les trois débats vont être déterminants.
Pas déterminants, mais ils vont permettre de savoir qui défend quelle ligne politique. Et pas simplement un débat gadgétique sur telle mesure ou telle mesure. Et donc, je pense que l'intérêt de Manuel Valls dans ce débat, c'est d'affirmer sa différence, mais pas d'affirmer sa différence comme candidat.
Pour l'instant, ça c'est pas... Et comme le disait un excellent...
Soyez patient. La deuxième chose que je voudrais signaler quand même au passage, et puisque vous n'êtes pas concerné en tant que média, mais je vous ferai remarquer que le paysage médiatique en France est détenu en grande partie les médias par deux grands groupes qui ont déjà des candidats à l'élection présidentielle. C'est quand même un problème.
Hein,
c'est un petit problème. Que tout d'un coup, des journaux se disent « Ah bah le même Manuel Valls, la semaine dernière, il était super. La semaine suivante, dès qu'il est candidat, on lui trouve une liste de problèmes énormes comme ça. » On se pose des questions.
On peut à tout le moins remarquer qu'il y a quelques jours, quand il était, enfin il y a quelques semaines, quand il était encore Premier ministre, il était très transgressif et qu'aujourd'hui, il a changé de pied, plus à gauche que moi, tu meurs. On se demandait où était passé le Manuel Valls de 2011 quand il était déjà candidat à une primaire, qui voulait supprimer l'ISF, qui voulait déverrouiller les 35 heures, qui vantait la politique de l'offre. Ça, il est passé où, celui-ci?
Non, il n'est pas...
Aujourd'hui, c'est...
Ce n'est pas le même... De ce point de vue-là...
Dans les traces de Mitterrand,
c'est... Manuel Valls, de 2011, aujourd'hui, à 2017, en 6 ans, c'est beaucoup en politique, surtout quand vous avez exercé des responsabilités.
J'entends bien, mais quand il était Premier ministre...
Il y a des choses qui ont changé.
Certaines autorités qui ont changé en 3 semaines.
Je pense que Manuel Valls est dans une situation qui est très claire politiquement et qui est différente des autres. Les challengers de la primaire, pour eux, la primaire, c'est tout. Ils font tapis à la primaire. Ils jouent tout. Ils prennent tous les risques. Quitte à inventer des positions une fois par semaine et en changer. Ils jouent tout. Pourquoi? Parce que d'un certain point de vue, s'ils gagnaient la primaire, ce serait leur médaille d'or à eux.
Ouais, mais...
Ils ne cherchent pas à être président de la République. Alors que pour Manuel Valls, il y a une double responsabilité. Il faut emporter la primaire. Il faut convaincre les électeurs de gauche. Mais il ne faut pas se retrouver cornérisé et pas être en capacité d'avoir des propositions fortes à faire au présidentiel. Donc, de pas déployer toutes ses cartouches sur la primaire.
Alors,
c'est aussi une réalité.
Comme le disait un excellent éditorialiste sur ce plateau la semaine dernière, est-ce que vous n'êtes pas en train de désigner le meilleur perdant?
C'est peut-être possible. Je remarque en tout cas une chose. Je trouve, moi, que les commentateurs sont sans pitié avec la gauche, alors qu'ils avaient été d'une gentillesse avec la primaire de la droite, incroyable. Qu'on a eu droit à 6 mois, que
attendez,
les mêmes observateurs...
Vos... Attendez,
comme...
elle était préparée pour Hollande, cette primaire.
Non, mais
c'était Cambadélis qui avait décidé de faire un truc
en toute franchise et en toute passion, mais je voudrais dire que les éditorialistes qui nous expliquaient pourquoi Alain Juppé allait être un grand président de la République, qu'aujourd'hui ils viennent m'expliquer quelles sont les difficultés de la gauche, c'est aussi très intéressant. Simplement, croyez-moi sur une chose, une des difficultés que la presse peut avoir, que les politiques peuvent avoir, que nombre d'observateurs, c'est qu'on a un double mouvement aujourd'hui dans l'opinion. Vous avez des mouvements très expressifs, en particulier sur les réseaux sociaux, des mobilisations. Et il y a des courants profonds qu'on arrive moins à lire. C'est comme ça qu'on n'a pas vu la montée de Trump aux États-Unis. C'est comme ça qu'on n'a pas vu le Brexit arriver. C'est comme ça que souvent on est surpris par les scores de l'extrême droite dans un certain nombre d'élections.
Qu'est-ce qu'on va voir arriver là?
Il y a un vote caché pour Valls qui va arriver.
Moi, je pense qu'il y a un électorat de gauche qui n'est pas en adéquation dans son débat avec ce qui se passe dans la surface des choses. Et je pense qu'il y a un bloc d'électeurs de gauche qui sont des familles, qui sont des salariés, qui sont des fonctionnaires, qui sont des gens attachés à des valeurs et qui ne sont pas en train de se dire que ils veulent plus ou ceci, qui sont d'abord inquiets d'une chose, qui se disent le programme de Fillon, ce qu'il a mis en place, ce qu'il nous a annoncé, qui est quand même assez révolutionnaire en France, c'est-à-dire une suppression partielle de la sécurité sociale, etc., que tout ça les inquiète et que surtout ce qui les inquiétait, c'est qu'ils avaient l'impression que la gauche n'avait plus de chance parce que le président sortant était cuit d'avance.
Mais est-ce que ces gens-là se sont pas déjà réveillés et est-ce que ce sont pas eux d'ailleurs qui remplissent les salles de meeting d'Emmanuel Macron?
Vous savez qui est le dernier homme politique qui a dit que les salles de meeting allaient lui donner la victoire? Ça s'appelle Nicolas Sarkozy.
Oui.
Le monde politique ne fonctionne.
Ça ne veut rien dire.
Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que
200 personnes à Tourcoing contre 10 000 avec Macron, est-ce que ça montre pas
10 000 à Tourcoing, Macron?
Non, non, c'était à Tourcoing.
Donc c'est pas du tout les mêmes opérations. J'ai été militant. Quand vous préparez un meeting central en payant des cars, etc., c'est pas du tout la même chose que vous déplacez à Tourcoing. Et les 200 personnes de Tourcoing,
il y en avait 200 chez Valls.
Je ne crois pas ça. Je ne connais pas les chiffres des meetings qu'avait fait François Fillon dans la primaire, mais il ne semble pas que c'était des spectacles sans lumière.
Autre question. Payons Valls, deux républicains de gauche, ils sont pas vraiment éloignés l'un de l'autre sur certaines thématiques. On se demande dans le fond. Vous tordez le nez là.
Ouais, c'est pas du tout pareil. Non.
Sur les valeurs républicaines.
Non. Il y a un grand problème avec les dernières déclarations qu'a fait Vincent Payon. Je m'excuse. Ils sont très ambigus.
Ah, vous faites référence à ce Vichy, etc.
Même ce qu'il dit des musulmans en France, je suis pas d'accord.
Oui, c'est ça.
Comparer la situation des juifs.
Non, mais ça, c'est une faute de quart, mais.
Non, c'est pas des fautes de quart. Croyez-moi, ils ont assez d'expérience pour savoir les phrases qu'ils prononcent.
Ok, alors qu'est-ce qu'il vient faire là?
Surtout le lendemain pour aller expliquer que la droite, être de droite, c'est empêcher les noirs de voter et ce genre de phrases. Il y a une sorte d'argumentaire, identitaire, communautaire, de valeurs un peu bizarres, qui est en train d'être déployé. Il n'est pas le seul. C'est comme quand Benoît Hamon dit « Bah oui, c'est tout à fait normal que des femmes ne rentrent pas dans les cafés. C'est une tradition ouvrière de la gauche. »
C'est la grande différence entre Valls et ses concurrents sur ces questions communautaristes.
Déjà, je vais vous dire, c'est le socle qui est très différent. Et je vais vous dire ce que je pense. Si la gauche, vu tous les événements que traverse le pays, vu l'impact de ces événements, je pense évidemment au terrorisme, au déchirement qu'il y a au sein de notre propre territoire, à la montée des communautarismes. Si la gauche n'est pas capable sur cette question d'avoir un bloc solide, elle peut exploser. Parce que, vous regardez l'histoire politique de la gauche. La gauche n'a jamais été rejetée politiquement dans ce pays sur des questions économiques et sociales. C'est sur des grandes questions. La guerre d'Algérie, la guerre d'Espagne, ce qu'il fallait faire avant la guerre. C'est des grandes questions qui structurent l'identité de la France et des Français. La République est l'enjeu de survie de la gauche. La gauche ne mourra jamais d'un échec économique, mais elle peut mourir d'un échec sur ses valeurs.
Visiblement, là, il y a une énorme fracture. Il va y avoir du travail à faire pour relever la gauche.
Il y a beaucoup de travail. Pourquoi? Parce que c'est des années de confusionnisme. C'est des années de confusionnisme entre la République, l'autorité. Et ce que Manuel Valls ramène dans le débat, c'est une cohérence, non pas autoritaire.
Cohérence, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais bon.
Non, mais c'est une cohérence pour moi entre une vision d'abord républicaine, puis sur laquelle on peut construire un développement politique. Mais si vous n'avez pas cette base républicaine aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on est en train de perdre partout. Partout. Donc, je pense qu'il faut quand même se rendre compte qu'il s'agit là d'un enjeu crucial. Ce n'est pas une petite question à côté. Je veux dire, je vais même vous parler, si on peut aller jusqu'au bout, en dehors des valeurs. Aujourd'hui, dans une stratégie électorale de la gauche, se passer de plus de la moitié de l'électorat, ou en tout cas ne pas envoyer des signes intelligents et forts à l'électorat féminin, qui est un enjeu extrêmement important. Montrer qu'on a un peu dépassé un discours très ancien sur les femmes. Ou de considérer qu'il y a des valeurs, oui, effectivement, défendre. Oui, sinon vous avez perdu les élections. Vous avez perdu les élections. Et il faut retenir de ce qui s'est passé aux États-Unis et l'élection américaine, même si on ne peut pas comparer un continent américain quasiment à un autre.
Mais il faut gagner la bataille des idées de gagner la bataille électorale. C'est Gramsci.
Je trouve qu'un pays qui ne sait pas qui il est, il ne peut pas savoir ce qu'il va faire. Il a besoin de savoir qui il est. La France se pose cette question. Vous avez des définitions ethniques de la France, vous avez des définitions financières de la France, il faut une définition républicaine.
C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve avec Malek Bouti juste après le flash d'information.
RFI et France 24 présentent
Mardi Politique.
Retour dans Mardi Politique sur France 24 RFI avec Véronique Rigolet, notre invitée, Malek Bouti, député de l'Essonne, membre de la commission de la Défense à l'Assemblée nationale et ancien président de SOS Racisme. Donc avant même la défection de François Hollande, vous aviez dit on ne peut pas le laisser être candidat. Donc aujourd'hui, si la gauche, ou si demain plutôt, la gauche perd, sera-t-il responsable, sera-t-il le fossoyeur du Parti Socialiste ?
Ah, il portera une grande responsabilité, parce qu'à double titre. D'abord, parce que pendant 10 ans, on l'a oublié. Après le choc du 21 avril 2002, il a dirigé le Parti Socialiste, et au lieu de le reconstruire, il l'avait un peu plus affaibli. La seconde chose, c'est que son élection a été une chance énorme pour lui. Quand vous avez une chance, on peut rater. Mais j'ai beaucoup senti chez les gens une chose, c'est qu'on n'a rien tenté. C'est même pas qu'on a échoué, il n'y a même pas de débat. Rien n'a été tenté. Ça pèse beaucoup dans notre primaire. Donc, il porte une responsabilité. Maintenant, faut être honnête. À partir du moment où il a assumé la responsabilité de ne plus être candidat, on peut pas faire le débat sur le dos de François Hollande.
Ce faisant, vous êtes encore plus dur que l'opposition quand vous parlez du président.
Qui aime bien. Je veux dire, quand c'est notre candidat, je trouve que c'est toujours facile en politique d'allumer.
Je sais pas si vous l'aimez bien. Ça
non, non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en politique, c'est très facile d'allumer violemment ses adversaires. Mais on n'est jamais clairvoyant sur son propre camp. Mais la politique, c'est d'abord d'être clairvoyant sur ce qui se passe chez vous. Or, nous, on est en responsabilité. Et dans cette élection présidentielle, on ne va pas être en difficulté pour des raisons intellectuelles.
Après le mandat d'Hollande, le PS ne sera plus jamais pareil. Il va falloir nécessairement passer à autre chose. Il y a quelque chose à reconstruire.
Moi, je pense que l'espace social-démocrate reste l'espace qui peut gouverner. Mais il y a vraiment un renouvellement de la maison qui doit avoir lieu.
Oui. Aussi avec bien ces deux gauches irréconciliables, ce côté un peu...
Avec tout.
Vieille lune socialiste.
Je vais vous dire d'ailleurs, quand je vois que les passions se font autour de la relance par la consommation ou la rigueur, ça c'est des faux débats. Par exemple, les débats sur la République, les débats sur la laïcité. Les débats sur le communautarisme sont autrement plus violents et passionnés.
Alors, on va en parler dans quelques instants. Je voudrais juste finir, parce que l'actualité cette semaine, c'est le livre d'Aquilino Morel, l'ancien conseiller de François Hollande, pardon, qui a été limogé pour une histoire de cireur de chaussures à l'Élysée. Dans son livre, il a dans le fond une thèse. Bon, il en a plusieurs. Il dit que, en fait, François Hollande a trahi l'esprit, l'abandon de l'esprit du bourget. Mais surtout, il dit... quelque chose d'intéressant, il dit François Hollande ne voulait pas exercer le pouvoir. C'est un problème quand on est président de la République. Est-ce que vous validez cette thèse-là ?
Il me semble que c'est assez pertinent comme regard, c'est-à-dire, je pense qu'on est... C'est pour ça que ça doit nous éclairer sur aujourd'hui. Il n'y a aucun intérêt à parler du bilan de François Hollande si c'est pour ne pas en tirer des conséquences. On ne peut pas être candidat à la primaire si on n'est pas prêt à assumer jusqu'au bout les responsabilités politiques. C'est-à-dire pas que les bonnes nouvelles. Les candidats de gauche qui pensent que être président de gauche, c'est distribuer des fleurs et des revenus à tous les gens tous les 4 matins, ils n'ont aucune notion de quelle période on vit. Être président de la France dans quelques mois, c'est d'abord être à la tête d'un pays qui est dans une guerre, à l'extérieur et à l'intérieur de nos frontières.
Mais il a été plutôt bon là-dessus.
Ben justement non.
Oui. Ah bon ?
Moi je suis frappé. Je suis frappé.
C'est ce qu'on lui reconnaît, sur ce terrain extérieur, il n'a pas été mauvais.
Je suis frappé.
Sur les opérations en Afrique.
Je parle surtout du soutien intérieur. C'est quand même pas lui qui avait les armes à la main en Afrique. On a quand même une armée très compétente, membre de la commission de la Défense nationale. Mais c'est pas tellement le débat intervention.
Non, mais.
Je pense qu'à la sortie des attentats, surtout après la manifestation du 11 janvier, il y avait la possibilité en France de prendre de grandes décisions politiques pour faire évoluer les choses. Et on a tous vécu cette impression, les observateurs comme les responsables politiques, que 3 semaines ou 4 semaines après un attentat, après l'émotion, on revenait au stade normal.
Vous vouliez faire quoi de plus?
Bah, par exemple,
il y a eu l'état d'urgence.
Non, l'état, il y a, en matière de sécurité, les choses ont été faites, heureusement.
Mais
il se passe des choses sur le terrain, il se passe des choses dans des cités, passe des choses dans le communautarisme, il se passe des choses dans la jeunesse. La politique, elle peut pas dire, alors moi, je n'interviens qu'une fois que les gens sont morts, mais avant, je n'ai rien à faire. Il y avait un travail de fond à faire, il y avait une mobilisation du pays qui n'a pas,
alors
qui n'a
justement, pas été entretenue. Et on va revenir, là, on vient dessus, en juillet 2015, Malek Bouti, vous avez remis à Manuel Valls un rapport sur les banlieues, ça s'appelait Génération Radicale, dans lequel vous décrivez une jeunesse frustrée, prête à basculer, un refus des valeurs démocratiques, et que c'est le djihad, la solution, vous l'écrivez, hein, vous écrivez le djihadisme et bien la radicalité qui prédomine aujourd'hui dans l'offensive antidémocratique et la France est menacée par un djihad de masse. Ça fait très peur quand on vous lit et en fait, votre rapport, personne, c'est ça dont vous parlez là, quand vous dites on n'a rien fait, est-ce que c'est ce constat-là
entre autres, je voudrais d'abord préciser
qu'on a mis sous le boisseau.
Les termes sont très importants. Ce n'est pas un rapport.
Attendez, c'est très fort.
Oui, bien sûr. Je remets pas en cause mes propres écritures. Je dis, ce n'est pas un rapport sur la banlieue. C'est un rapport sur la jeunesse et sur la radicalité.
Enfin, la jeunesse radicale vit en banlieue, non?
Ben justement, non. Non. Si vous constatez aujourd'hui, et c'est une des parties de mon travail, c'est que vous avez une montée de la radicalité dans tous les secteurs de la jeunesse, même si elle trouve pas la même expression. Vous avez cette jeunesse des banlieues. Mais vous avez beaucoup de jeunesse en province qui se radicalise.
Oui, on l'a vu.
Les foyers les plus durs, d'ailleurs, de djihadistes se trouvent dans des zones rurales ou crypto-rurales. Elle touche évidemment prioritairement des jeunes de culture musulmane, mais elle a pu en toucher beaucoup d'autres. Et surtout, elle est le signe annonciateur d'une nouvelle période politique où la violence va reprendre place dans le débat politique. Vous allez voir de la violence émerger dans les conflits sociaux, de la violence émerger dans les conflits écologiques. Il y a une nouvelle période politique par rapport à la jeune génération. Et cette jeune génération, c'est ce que je vous dis, elle ne croit pas ou elle considère que la démocratie est un décor de carton-pâte, que les boîtes électorales ne servent à rien et que seule l'action directe... Et donc, le djihad est une conviction politique. Et ça fait comprendre le danger auquel on est confronté. Parce qu'un jeune qui a 15 ou 20 ans adhère à une conviction politique, eh ben je peux vous dire, il est très dur à combattre. Et surtout, on ne peut pas le faire revenir en arrière si facilement.
Le rapport a donc été enterré, pourtant il a été demandé par Valls. Il a été mis de côté, on va dire, allé sous le bois.
Alors, politiquement, on peut dire.
Politiquement, il a eu... Ouais. C'est vrai que la gauche a eu du mal à en parler.
Mais
D'abord, j'ai pas fait ce rapport pour la gauche, pour être honnête. Je l'ai d'abord fait pour aider nos forces de sécurité. Et il a été utilisé par nos forces de renseignement et nos forces de sécurité. Voilà. Et il aurait été utile pour mettre sur pied des nouveaux outils qui vont continuer, parce qu'il s'agit d'une nouvelle forme de guerre qui est en train d'apparaître. Donc pour moi, le plus important, c'est pas de convaincre la gauche, excusez-moi, c'est de protéger le pays, en tant que député, il me semble que...
Enfin, c'est d'agir.
La gauche est très critique en disant vous mettiez les jeunes tous dans le même sac, quoi.
Non, pas la gauche, il y a un certain nombre de gens qui sont d'ailleurs candidats.
Les djihadistes, les identitaires du Sud.
C'est vrai, vous avez raison, il y a un certain nombre de gens, y compris qui sont représentés dans cette primaire, qui ont un discours totalement opposé au mien, qui a un discours de compréhension à l'égard de l'islam, y compris radical, qui est un discours qui dit que la laïcité, c'est chacun fait ce qu'il veut, qui est un discours qui considère assez normal l'oppression contre les femmes. Donc oui, là, il y a des grands débats politiques. Et moi, je trouve que des gens qui sont progressistes sur le terrain social et qui sont réactionnaires sur le terrain des valeurs, c'est un problème.
La gauche a un problème avec ce sujet.
En tout cas, il y a un débat à gauche comme à droite, d'ailleurs. Il y a un débat dans le pays sur ces sujets. Dans toutes les familles, il y a un débat.
On va parler de la politique étrangère, parce que c'est vrai que les sujets régaliens comme la politique étrangère dans la primaire de gauche, pour l'instant, excepté une interview de Benoît Hamon dans Le Monde la semaine dernière, pas grand-chose. C'est pas parce que ça ne les intéresse pas, ou ça n'intéresse pas les journalistes, ou ça n'intéresse pas les Français, je ne sais pas. En tout cas, peut-être, Véronique, trois parlementaires de droite qui sont partis en Syrie, voir Bachar el-Assad.
Oui, vous comprenez cette démarche, vous-même, en tant que parlementaire, d'aller voir plusieurs fois par an, en tout cas c'est le cas pour l'un de ces parlementaires, Thierry Mariani, le dictateur syrien. Est-ce que c'est vraiment là la mission d'un parlementaire français?
Oui. Je pense que
vous auriez pu aller avec Mariani.
Écoutez, non, pas du tout. Ah. J'aurais jamais ni été là-bas, ni serré la main de Bachar el-Assad pour rien au monde. Mais je lui reconnais ce droit. Oui. Je pense que ceux qui représentent le peuple français ont le droit, et je dirais même l'obligation parfois, de contrôler, de vérifier, d'aller voir. Ça fait partie de leur responsabilité. Je ne le conteste pas politiquement. Je suis pas du tout pour les conclusions et ce qu'ils insinuent. Il faut reprendre langue avec Bachar el-Assad. Mais je trouve normal que on le fasse. Pourquoi? Et j'insiste beaucoup là-dessus. Vous êtes des médias qui couvrez à l'échelle internationale. Et vous savez très bien qu'une des grands éléments de la crise des démocraties aujourd'hui, c'est combien les gens ont mal digéré les manipulations qui ont amené des guerres. Je pense évidemment à la guerre en Irak, qui a été vécue par l'opinion publique et les opinions publiques internationales comme une rupture de confiance avec le monde médiatique et le monde politique. Le point de départ de ce qu'on appelle la vague populiste, elle commence par le fait que les gens se sont rendus compte que les plus grands États, les plus grands responsables politiques ont manipulé les opinions pour enclencher des guerres. Et donc il y a aujourd'hui, sur les questions en tout cas
en
très
importantes... aux États-Unis,
mais
pas.
Tout le monde a été impacté par ça. Et c'est une de, par exemple, c'est un des arguments de référence de recrutement des djihadistes chez les jeunes, en leur disant voilà comment on manipule. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas normal qu'il y ait des débats quand c'est des questions aussi essentielles que la guerre ou la paix. Ils ont le droit. Donc, maintenant, je partage aucune de leurs conclusions.
Bachar el-Assad a dit, s'est exprimé devant la trois médias français à propos de François Fillon, qui est accusé, dit-on, d'avoir un regard plutôt complaisant auprès de Bachar et de Poutine. Écoutez, en tout cas, ce que disait Bachar el-Assad, c'est un peu le baiser de la mort.
Sa rhétorique concernant les terroristes, sa priorité consistant à combattre les terroristes et de ne pas s'ingérer dans les affaires des autres pays, sont les bienvenus.
Voilà, est-ce que c'est Bachar qui piège Fillon dans le fond?
Vous savez, faut retenir une leçon de ce qui se passe un peu partout. On est tous maintenant sur le même ring à l'échelle internationale. On a vu, et les preuves maintenant ont été amenées et vont commencer à être déployées, comment la Russie a tout fait pour essayer d'influencer l'élection présidentielle américaine.
Oui, c'était prouvé, oui.
Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va subir les mêmes pressions. Vous avez aujourd'hui des tentatives de manipulation des opinions, soit discrètes par Internet, en forme de manipulation, soit par des déclarations qui sont dangereuses. Donc, il y aura un débat avec François Fillon sur sa politique étrangère, mais en aucun cas, les propos de Bachar peuvent influencer notre propre regard. Pour moi, il est discrédité. Un homme qui assassine son propre peuple n'a pas à nous expliquer à nous qui est bien et qui est pas bien. C'est un débat qui existera entre nous.
Et pour le candidat de la droite, est-ce que c'est embarrassant d'avoir comme ça le soutien?
Franchement, vous mettez à la place de François Fillon, il préférait quand même avoir le pape derrière lui plutôt que Bachar el-Assad. Ah non, c'est pas encore fait. Il l'aimerait bien, mais c'est pas encore fait.
2017, quand on commence sur des auspices, on va dire, d'inquiétude. Il y a eu le Brexit, l'élection de Trump et Trump qui prend donc le pouvoir le 20 janvier. Donc c'est un nouvel ordre mondial. Certains diront un désordre mondial qui est en train de se mettre en place avec des alliances différentes, en tout cas des axes entre la Russie, la Turquie, l'Iran. L'option diplomatique aujourd'hui, le monde vu par Valls, vous, c'est un sujet qui vous passionne. Cette option diplomatique, elle ressemble à quoi autour de Manuel Valls? Quelle est la vision de l'ancien Premier ministre?
Je crois que ce que Manuel Valls est en train de dessiner, c'est d'essayer de ramener la France, je dis bien de ramener, parce qu'il y a eu beaucoup de dérives, la France dans ce qui doit être sa position forte à l'échelle internationale. C'est-à-dire, nous avons des alliés, l'OTAN, des alliances militaires et de protection, mais nous devons avoir une politique internationale indépendante des deux grandes puissances que sont la Russie et l'Amérique. Parce que nous devons...
Mais si elles font un axe, si l'Amérique et la Russie font un axe ensemble, qu'est-ce qu'on
fait? Il ne faut pas confondre la période actuelle avec ce qui va se passer. Par logique, ces deux grands blocs sont amenés à s'affronter.
Concrètement, ça veut dire quoi, une politique indépendante?
Concrètement, ça veut dire quoi?
C'est le sentiment qu'on avait déjà de la politique actuelle.
Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra prendre une série de décisions, pas n'importe lesquelles, mais retrouver... Vous savez, quand François Fillon...
Sortir du commandement intégré de l'OTAN, par exemple? Jusque-là, Manuel Valls?
Moi, ce que je pense, c'est que toute décision doit être prise d'abord en coordination avec les intérêts de sécurité de notre pays. Donc, la discussion avec les états-majors militaires est importante. Est-ce que rester dans l'OTAN est important ou pas? Mais une chose est sûre, on peut être dans l'OTAN sans dépendre de l'OTAN. On peut être dans l'OTAN sans accepter, par exemple, de participer à n'importe quelle aventure militaire. Et surtout, on devrait, nous, les premiers, dire une chose. Aujourd'hui, une des raisons pour laquelle il y a une crispation de la Russie, c'est que les États-Unis, profitant de la période un peu de faiblesse de la Russie, ont poussé loin le bouchon d'adhésion à l'OTAN. En proposant que l'Ukraine, en proposant que la Pologne, en proposant plein de pays rentrent dans l'OTAN, ils ont poussé la Russie aussi. De l'autre côté, les Russes profite de la situation mondiale pour redevenir un peu hégémonique. Nous, la France, on doit être au cœur des pays qui ont envie d'échapper à cette
logique. Mais en quoi on n'a pas été indépendant et qu'est-ce qui nous aurait... je comprends pas quand on dit il faut retrouver notre indépendance. On a été dépendant vis-à-vis de qui ? Sur la guerre en Irak, vous en parliez il y a quelques instants, Jacques Chirac et Dominique de Villepin ont refusé de suivre George Bush dans sa guerre. François Hollande a voulu, après les armes chimiques contre la Syrie, enfin de Bachar contre son peuple, il a voulu faire une action. C'est Barack Obama qui lui a retiré le tapis sous les pieds. Donc cette indépendance ou cette dépendance, je vois pas trop de quoi vous parlez.
Il faut faire attention. Il y a eu la période qu'on vient de vivre, qui a été une période intermédiaire au sens international. La nouvelle période qui s'ouvre est une période de violence et de force, de retour, comme disent les militaires, de la force des nations.
Oui. Ou des empires.
Ce sont des grandes nations qui utilisent la force, y compris. Vous avez vu ce qui s'est passé, par exemple, en Ukraine, avec la Crimée, avec les. Il n'y a pas de débat. Il y a j'envoie mon.
Et le retour des empires.
Et le retour des empires. À partir de là, je pense qu'il faut en tirer des conclusions. François Fillon propose, lui, de construire un axe avec la Russie.
D'avoir au moins un dialogue.
De construire un axe avec la Russie, son propos, il est clair.
Vous non, vous dites
non. Nous on propose au contraire. D'abord,
qu'est-ce qu'on fait avec la Russie? On les laisse
Non.
On a quand même une guerre à gagner contre l'État islamique. Donc à un moment ou un autre, on est censé avoir un dialogue avec les Russes.
Si vous gagnez une guerre contre l'État islamique,
les Américains,
pour retrouver une guerre avec une nouvelle organisation, pour vous retrouver embrigadé dans d'autres systèmes, c'est plus compliqué que ça. Et y compris, il faut faire attention aux choses. Vous parlez par exemple du fait qu'on ne soit pas rentré en guerre à l'époque de Jacques Chirac, du grand discours de Villepin. Est-ce que ça empêchait ces gens-là de venir nous tuer chez nous ? Est-ce que vous avez déjà vu une organisation dire « on remercie la France, elle, de ne pas avoir bombardé ?» Non, on est même la principale cible. Donc, on est aujourd'hui un peu perdu dans tout ça. Ça veut dire quoi ? C'est la priorité, ce qui aurait dû être la priorité de la diplomatie et de la défense européenne devient un enjeu crucial de survie pour nos nations.
Donc une relance de l'Europe aujourd'hui, parce que ces empires,
il faut aller à Berlin très vite. Alors.
Oui, il faut aller, non seulement, la réalité c'est qu'il y a un axe franco-allemand de défense qui doit être constitué, et que ça veut dire aussi qu'il faut réviser beaucoup de choses et faire tendre la main à notre principal partenaire, l'Allemagne, le considérer plus comme un pays vaincu de la Seconde Guerre mondiale, mais un des grands pays de ce 21e siècle, si on est allié ensemble, et entraîner l'Europe pour qu'on puisse avoir notre marche. Ça ne veut pas dire qu'on ne choisit pas, mais ça veut dire qu'on est indépendant pour choisir.
Mais il faut qu'elle change, l'Allemagne. Est-ce qu'on y va avec des critiques? C'est-à-dire, on a envie de leur dire, bon les gars, maintenant vous aussi, vous avez des attentats sur votre sol, donc votre tradition pacifiste, surtout le côté Brick Brother, on ne veut pas en entendre parler. Est-ce qu'on demande à l'Allemagne de s'impliquer plus sur le terrain, de s'appliquer plus dans les moyens militaires, de changer...
Si cet axe n'est pas fait, écoutez, on voit bien, ce qui a créé un problème, c'est qu'il y a eu une faute des deux côtés. La France n'a pas totalement admis ce qu'est la nouvelle Allemagne réunifiée, c'est-à-dire de nouveau une grande puissance. Pas totalement. De l'autre côté, l'Allemagne a été, je dirais, a eu un peu de morgue sur sa réussite économique par rapport à tout le reste de l'Europe. Une sorte de chacun pour soi... Et des tensions sont apparues. Mais il n'y a pas eu de rupture.
Et de défiance réciproque
entre
les Allemands et nous.
Si on commence par dire, voilà ce qu'on va demander aux Allemands. Non. Il faut que chacun fasse un pas. Mais une chose est sûre.
Reconstituer. Les attentats de Berlin
énormément.
De défense qui doit se construire nécessairement.
Absolument, vous avez raison. Le nouveau, parce que faut bien comprendre, on dit le mot attentat, mais il y a toujours eu des attentats. C'est un nouveau type de guerre auquel on a affaire. C'est une guerre. Ce ne sont pas des actes, des attentats. C'est une guerre qui peut durer. Et le fait que des pays qui, c'est normal, aient cru qu'ils allaient passer au travers des gouttes, aujourd'hui, ce bloc considère qu'aujourd'hui, il y a un intérêt collectif. Les services de renseignement coopèrent énormément. Les services, finalement, militaires coopèrent. La politique a du retard. Et donc, il faut profiter de cette nouvelle période et de dire, on doit être indépendant. Et pour qu'on soit indépendant, on a besoin de l'Allemagne. Mais il faut aussi que la France fasse la preuve qu'elle n'amène pas l'Allemagne dans une nouvelle alliance ou dans un... On doit être indépendant d'Europe. Et c'est pour ça que l'Allemagne, si c'est François Fillon, bon courage pour amener l'Allemagne à suivre Poutine. Bon courage.
Valls et Angela Merkel, ils auront aussi deux, trois choses à mettre au clair pour se réconcilier, peut-être au début.
Mais pas sur des questions diplomatiques, peut-être sur des sujets politiques. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois qu'ils partagent un même regard diplomatique. Je crois. Je crois que ça, c'est important. Et je pense que l'Allemagne peut nous amener quelque chose, mais que la France, elle a une tradition diplomatique, des sphères d'influence et un enjeu qui est extrêmement nécessaire. En fait, la question qui va se poser à travers cette élection présidentielle, c'est pas, excusez-moi de le dire, que le domaine intérieur et les petits enjeux franco-français. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on demeure une grande puissance ? Est-ce qu'on assume notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU ? Est-ce qu'on est encore capable de peser ? Ou est-ce qu'il faut limiter les frais et trouver un parapluie ? Fillon propose un parapluie. Nous, on propose, au contraire, de sortir un peu de notre réserve et de redevenir une grande puissance.
Ambitieux. Merci beaucoup, Malek Bouti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Véronique. On se retrouve la semaine prochaine. Et merci à Pauline Hellmann d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite.